Radio Campus 88.3.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En premier temps, Louane.
Bonjour.
Tu nous feras un récapitulatif des événements au Sénégal où s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles dans le pays. Cet événement national aggrave les tensions entre les partis et les habitants qui plongent le pays dans une crise politique sans précédent. On passera à Ludo.
Bonjour.
Avec des rebondissements sur l'affaire de l'ex-directeur des sciences et techniques de l'Université d'Orléans. Hier, la justice a ordonné un procès pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux et blanchiment aggravé de la part de l'ex-directeur. Ludo, tu nous en parleras en détail tout à l'heure.
Bien sûr.
De mon côté, je vous parlerai des 1 an de la dernière manifestation à Sainte-Soline et de sa répercussion aujourd'hui sur les luttes écologiques et les projets anti-vaccins. On passera à l'actu sport avec Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Tu as décidé de nous parler des violences opérées entre les supporters turcs il y a 2 semaines qui opposaient le club Trabzonspor et le Fenerbahçe.
Fenerbahçe, ouais.
Très compliqué à dire. Pardon. Ensuite, Chris, bonjour.
Bonjour.
Tu nous feras une chronique pour la mémoire, sur la mémoire de Jean-Pierre Joseph, militant autochtone de Guyane, décédé le 15 mars dernier. Tu nous parleras de sa vie et de sa lutte pour les droits amérindiens en France.
C'est ça.
Ensuite, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et enfin, pour clôturer, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous. Bon, tu veux que je t'en fasse d'autres ou... Genre midi 13h ?
Écoute ta fac !
Mais pour commencer cette émission, comme il se doit, j'ai avec moi Louane. Dimanche dernier, il y a eu le premier tour des élections présidentielles au Sénégal, un événement qui plonge le pays dans une crise politique. Des tensions sont tellement fortes que cette élection au premier tour a même été décalée 1 mois plus tard que la date officielle. Dis-nous en plus.
Oui, le prochain président de la République devra réconcilier les Sénégalais. C'est en ces mots que l'archevêque de Dakar résume les enjeux des récentes élections sénégalaises. En effet, dimanche dernier, les Sénégalais ont été amenés à élire leur nouveau président. Bien que les résultats officiels sont proclamés demain, le candidat anti-système, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé en tête du premier tour. Pour rappel, ce dernier a été libéré de prison quelques jours avant les élections, il y a 10 jours. Il y était détenu depuis avril 2023 pour insurrection, ce qu'il dénonce comme étant une manigance politique. Alors, ce scrutin a été particulièrement suivi à l'étranger. Du fait, Dakar maintient des relations fortes avec l'Occident, tandis que la Russie renforce ses positions aux alentours. Avec 18 millions d'habitants, le Sénégal est considéré comme l'un des pays les plus stables d'une Afrique de l'Ouest secouée fréquemment par les coups d'État. En effet, c'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest continentale à n'avoir jamais connu de coup d'État militaire. Alors, il a connu 3 passations de pouvoir, largement pacifiques. Sur ce plan, le Sénégal possède une culture électorale très ancienne qui remonte en 1848, lorsque les habitants de la ville de Saint-Louis et de l'île de Gorée ont acquis la citoyenneté française. À cette date, le droit de vote était réservé aux Blancs et aux Mulâtres. Il faudra attendre 1946 pour qu'il soit élargi à l'ensemble des Sénégalais lors des élections constituantes de 1946 dans les colonies du Sénégal et de Mauritanie. Alors, la première élection présidentielle du Sénégal indépendante s'est déroulée en 1963, 3 ans après l'indépendance. Cette élection s'est déroulée dans un contexte assez particulier. En effet, Macky Sall, le président sortant au pouvoir depuis 2012, a décidé de reporter l'élection, plongeant le pays dans une crise politique. Ses opposants ont dénoncé un coup d'État constitutionnel, pointant du doigt la corruption de certaines institutions du pays. Le report du vote a déclenché des violences qui ont fait près de 4 morts. Plusieurs semaines de confusion ont mis à l'épreuve la pratique démocratique du Sénégal jusqu'à ce que soit arrêtée la date du 24 mars. La campagne a été réduite à 2 semaines, tombant en plein mois de jeunes musulmans. à savoir que la religion musulmane est majoritaire au Sénégal. Fait néanmoins historique, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que le président qui organise les élections n'est pas candidat à sa propre succession, bien que dans les faits, ce dernier a désigné comme héritier désigné son premier ministre Amadou Ba, qui arrivait deuxième aux élections. Mais force est de constater que le nouveau président du Sénégal incarne un renouveau radical. En effet, Bassirou Diomaye Faye est un ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste anti-système, aux accents parfois populistes. Et il porte un projet de rupture, alors non seulement avec le parti au pouvoir, mais également avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble. Son programme insiste notamment sur le rétablissement de la souveraineté nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il a également promis de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Aussi, le Sénégal pourrait commencer à produire du gaz et du pétrole en 2024.
Merci Loane pour ta chronique. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à ma chronique et à celle de Ludo sur les actualités concernant l'affaire de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics de l'ex-directeur des sciences techniques de l'Université d'Orléans. À tout de suite.
Et place au morceau de Blume qui s'appelle It's Me the Ocean.
I miss the ocean and I hope it's missing me. Its waves are the potion that helped me set me free. Without it, I feel like a bird on a leash. Oh, I miss the ocean and I hope it's missing me. Deep down, we both got our secrets. I haven't seen you for a while now. I hope you're dreaming of me right now.
Écoute ta fac.
On est de retour sur l'émission Écoute ta fac. Nous avons avec nous Ludo. Hier, la justice a ordonné un procès pour l'ex-directeur des sciences et techniques de l'Université d'Orléans qui est suspecté de détournement de fonds publics, faux et usage de faux et blanchiment aggravé de la part de l'ex-directeur. Dis-nous en plus.
Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle donc d'une actualité très locale, puisque France Bleu Orléans a révélé mardi qu'un juge d'instruction a ordonné donc un procès dans lequel Hechmi Toumi, l'ex-directeur donc de l'UFR des sciences et techniques, était impliqué, donc comme l'a dit Luna, pour détournement de fonds publics, abus de confiance, faux et usage de faux, et blanchiment aggravé. Le 29 septembre 2020, alors que les élections pour la présidence de l'université rentrent dans sa phase finale, les trois têtes de liste sont placées en garde à vue. Donc Harry Bruant, le président sortant, Éric Lespézaille, le président de l'Institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose, ainsi que Eshmi Toumi, directeur de l'UFR Sciences et Techniques. Donc une information judiciaire est ouverte par le parquet, et deux jours plus tard, Éric Lespézaille et Eshmi Toumi sont mis en examen, tandis que Harry Bruant est placé comme témoin assisté. France Bleu nous renseigne également sur les faits reprochés, dont les agissements de Eshmi Toumi, qui aurait entre autres, entre 2013 et 2018, utilisé l'argent de l'université dans l'entretien d'une Porsche Cayenne, des missions fictives, des courses alimentaires, de la téléphonie, de l'informatique, l'achat d'un véhicule et l'occupation et l'ameublement d'un logement au sein de l'UFR. Celui-ci s'était plaint à l'époque du timing de cette mise en examen, à une semaine des élections, mais l'enquête avait commencé déjà début 2018. Celui-ci avait en 2020 suspendu pour un an de ses fonctions d'enseignement et de membre de conseil d'administration et interdit d'accès aux locaux tant que les mesures prises par l'autorité judiciaire permettent un rétablissement de ses fonctions, nous renseigne ici Actu-Orléans. Mais le Conseil d'État en décembre 2022 avait rejeté cet arrêté signé par le vice-président qui n'était donc pas habilité à le faire. Cependant, donc, l'affaire de détournement de fonds continue. Des faits reprochés concernent également son activité de vice-président de l'IPROS, traces de factures de frais de déplacement, des billets d'avion pour les États-Unis et un appartement à disposition appartenant au CROUS, tout cela pour un total de 200 000 euros couverts par l'association. De plus, l'ex-directeur de l'UFR est poursuivi pour blanchiment d'argent pour de fausses déclarations au fisc, tandis que Éric Lespézaille, considéré complice, est accusé et soupçonné d'abus de confiance, puisque les deux prévenus disposaient des comptes et moyens de paiement de l'association. Demeurant néanmoins présumés innocents, les deux prévenus sont placés sous contrôle judiciaire jusqu'à la tenue du procès. Merci pour votre écoute.
Merci Ludo. On passe maintenant au 1 an de la dernière manifestation à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine ce lundi 25 mars. A été un événement pour commémorer cette date un an jour pour jour, mais aussi pour célébrer les avancées sur les questions de lutte écologique sur tout le territoire français.
Et oui, lundi, c'était l'anniversaire des 1 an de la manifestation à Sainte-Soline. C'était le 25 mars 2023. Elle avait réuni plus de 30 000 personnes afin de protester contre le projet de création d'une méga-bassine dans cette petite commune des Deux-Sèvres. Un événement marquant qui s'est répercuté jusqu'au niveau national du fait de l'ampleur du mouvement et de la violence autour de cette manifestation. Avant de parler de la manifestation en tant que telle, parlons de comment le mouvement s'est-il créé et comment autant de personnes se sont réunies sur un lopin de terre. On peut remonter au collectif Bassine Non Merci, qui, comme son nom l'indique, s'oppose à la construction de méga-bassines. Même si au départ on comptabilisait quelques groupes locaux, le mouvement a pris de l'ampleur sur presque tout le territoire français. D'autres collectifs ont rejoint cette organisation, comme les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne et aussi la CGT. Leur but, lutter contre ces méga-bassines qui contribuent à l'agroagriculture, un système jugé délétère et peu en phase avec la réalité que nous faisons face, notamment du fait du réchauffement climatique. L'eau irriguée de manière intensive est utilisée pour alimenter une agriculture qui n'est pas en phase avec le présent comme le futur. Mais les méga-bassines représentent pour ces collectifs et organisations un deuxième problème, celui de l'accaparement de l'eau de ces bassines à un petit groupe d'exploitants. En effet, l'eau stockée servirait à alimenter moins de 5% des agriculteurs de ce bassin, qui représente la grande majorité des céréaliers. La construction d'une méga-bassine à Sainte-Soline n'est pas d'ailleurs un cas d'exception. Il existe dans le département des Deux-Sèvres plus de 16 projets de construction. En Vendée, on en compte une dizaine de bassines déjà créées. Le 25 mars est donc la réunion d'une lutte écologique et sociale, mais l'arrivée des manifestants sur les lieux ne se passe pas comme prévu. Pour 30 000 manifestants, plus de 3 200 gendarmes étaient présents. Un chiffre colossal, mais ce n'est pas le pire. Plus de 5 000 grenades sont lancées au cours de la manifestation. Le 25 mars est le lieu d'explosion de toutes parts, de violences sonores comme physiques. On comptabilise à la fin plus de 200 blessés, dont deux en état grave. Ce 25 mars 2023 marque un tournant pour les luttes écologiques. La Ligue des droits de l'homme avait vivement critiqué en juillet cette violence qui a surgi de la part du gouvernement sur les citoyens. Pour certains, je cite, « la volonté politique était claire, la manifestation de Sainte-Soline ne devait pas avoir lieu ». Un coup de force du gouvernement, mais particulièrement du ministère de l'Intérieur, qui est pointé du doigt sur les agissements opérés par les forces de l'ordre lors de la journée. En effet, alors que les blessés se trouvaient en situation critique, les secours peinaient à arriver. Pour la Ligue des droits de l'homme, la situation est très claire. Pour eux, la préfecture des Deux-Sèvres n'avait pas anticipé un accès et un dispositif de soins dans cette zone, alors qu'ils connaissaient le déploiement gigantesque des forces de gendarmerie. Voilà pourquoi lundi dernier, le 25 mars 2024, les soulèvements de la Terre ont organisé un événement appelé Megaboom pour fêter cet anniversaire de lutte. Plusieurs villes ont joué le jeu comme à Tours, à Montreuil, Nantes, Lyon ou bien Poitiers, où un éventail à l'effigie de Gérard Darmanin avait été brandi durant la manifestation avant d'être jeté dans le fleuve sous les acclamations. De nombreux slogans ont été scandés comme à Sainte-Soline, « La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner », des phrases choc, donc, pour montrer la détermination des collectifs dans cette lutte écologique. Et donc, je me tourne vers vous. Avez-vous entendu parler du projet de mégabassine à Sainte-Soline il y a un an ? Est-ce que vous en avez eu pris connaissance ? Et qu'en avez-vous pensé, si jamais vous avez un avis là-dessus ?
Ouais, moi j'en avais entendu parler, mais c'était pas par rapport à ce qu'ils voulaient faire, c'était par rapport à comment ça avait été géré entre forces de l'ordre et manifestations et où le... comment on dit ? J'ai perdu mes mots, où le dispositif policier avait été démesuré comparé aux manifestations sur place, aux manifestants, pardon, sur place, et que ça avait très vite dérapé et que la police avait fait un peu un excès de zèle, avait utilisé un peu trop de violence. Mais après, je t'avoue que non, je n'avais pas entendu parler du projet en tant que tel, c'est juste les violences policières qui m'ont fait découvrir le projet.
Oui, effectivement, moi, un petit peu comme Antoine, c'est vrai que ce qui... Je pense que ce qui est vraiment dans la tête de pas mal de personnes, c'est les images et les vidéos qui sont quand même d'une rare violence. Et malheureusement, dans un sens, c'est vrai que on se souvient plus de Sainte-Soline pour sa violence et pour l'événement en tant que tel et ses affrontements et la communication qu'il y a eu ensuite autour de cet événement plutôt que pour le fond, en fait. C'est vrai que là, pour le coup, la forme l'a imprimé sur le fond. Et du coup, merci beaucoup pour ta chronique, Luna, parce qu'on a appris plein de choses.
Merci.
Ouais, effectivement, on avait entendu parler. Moi, je m'étais pas mal renseigné à l'époque sur ce qui se passait, parce que ça avait fait beaucoup de bruit. Il y avait eu un complément d'enquête qui avait été fait dessus et qui avait révélé certaines choses sur la chronologie des violences. Enfin, je crois que c'était devenu un peu ça le sujet, comme l'a dit Louane, qui avait un peu occulté, effectivement, le débat écologique. Et là, il me semble qu'il y a une vidéo qui est sortie pour les 1 an de Sainte-Soline de 1 heure. Je ne sais plus réalisée par qui exactement.
Je ne pourrais pas te dire, mais oui, en effet, il y a eu un documentaire qui a
un
été,
gros documentaire, ouais, peut-être du Monde, je ne suis plus
c'est
très sûr.
C'est pas Brut ?
Ah, c'est possible, oui.
Brut avec Charles Villa, où ils font en ce peut-être. Moment des documentaires. Il me semble avoir vu passer quelque chose comme ça, je ne suis absolument pas sûr.
Ouais, et effectivement, c'est vrai que sur l'organisation, c'était un peu un fiasco. Enfin, on a vu qu'il y avait l'accès aux soins qui n'avait pas du tout été possible pour les personnes là-bas, qui avaient été très mal gérées, des tirs qui avaient été faits beaucoup trop tôt, et même en termes de moyens déployés, c'était colossal. Alors que parfois, c'était juste, à certains moments, c'était des familles, des ensembles plutôt familiales. Donc, effectivement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez large à traiter, je crois, et que c'est important de se renseigner dessus pour bien comprendre les enjeux et ce qui s'est passé là-bas. Et même au-delà de ça, l'enjeu de la répression en manifestation et comment c'est géré par l'État. C'était très utile. Merci.
Alors oui, moi j'ai un avis tout particulier sur ce sujet parce que forcément j'avais Vu que je fais partie aussi, je connais le monde écologique entre guillemets, on avait reçu quelques mails sur la préparation de ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Et véritablement, l'État était là, non pas pour faire de la pédagogie, mais était vraiment là pour montrer...
Une répression.
Voilà, la répression, c'était vraiment montrer un coup de force total et montrer que les écologistes qui étaient là n'étaient pas véritablement des écologistes, mais surtout des fouteurs de troubles et en fait des casseurs. Et c'était vraiment, moi, c'est mon impression en tout cas, hein, celle que j'ai, que l'État était là pour taper de l'écolo. Je regardais les chiffres, c'était 4000 grenades qui ont été tirées.
5000, ouais. 5000.
Moi, sous les yeux, j'ai 4000, mais en tout cas, c'est toutes les deux secondes. Et je trouve
c'est énorme,
ça,
ouais.
C'est énorme. Et par rapport, voilà, il y avait des familles, il y avait très peu de gens qui étaient vraiment là pour casser entre guillemets ou pour aller voir directement affronter la gendarmerie directement face à face, et c'était totalement disproportionné. Et c'est encore une fois Darmanin, voilà, Darmanin a voulu faire de cet événement vraiment un coup de force, et moi je trouve ça scandaleux.
Un des problèmes aussi, c'est sur la communication, parce qu'ils avaient bien insisté sur le fait que les policiers gendarmes ne font que répliquer à des gens qui sont violents, et c'est ce qu'ont montré les reportages et les études
pas,
qui ont été faites,
ouais, pour la grande majorité.
C'est que les tirs, etc., ont commencé dans un environnement où, en tout cas, les manifestants n'attaquaient pas, ne répliquaient pas, et donc quand on a une communication qui est là, pour le coup, genre factuellement mensongère du ministre de l'Intérieur, ça interroge, et d'autant plus aussi des violences qui sont, comme tu l'as dit, assez exacerbées. Donc,
surtout que les renseignements territoriaux étaient très bien renseignés et savaient plus ou moins le type de population qui allait venir. Donc, c'est vrai
surtout qu'il y avait en plus des groupes. La manifestation était répartie en trois groupes, dont un groupe qui était plutôt mobile, plutôt jeune, etc., qui était plus dans l'action, et d'autres groupes vraiment avec des personnes fragilisées, des personnes peut-être plus âgées. Il y avait même des élus aussi qui ont eu directement un affrontement direct avec la police, alors que pourtant ces groupes n'étaient pas censés subir de violences directes. Donc même l'organisation qui avait été faite de la part des Soulèvements de la Terre, etc., et des autres collectifs, finalement, ils se sont fait vraiment, submerger par les forces de police, de gendarmerie.
Ouais, puis on a eu des blessés graves. Enfin, pardon, mais il y a eu des... Ouais, voilà, deux comas, il y a eu des éborgnés, et justement avec des gens qui n'ont pas pu être pris en charge directement, qui ont dû attendre, parce que la gendarmerie les bloquait, comme le montrent certains reportages, dont un de l'AFP, si je me souviens bien. Après, il y a aussi eu des blessés côté gendarmes, hein, 47, mais bon, quand on parle de 200 blessés côté manifestants...
Et puis c'est très superficiel.
Et surtout, c'est en plein contexte, il faut rappeler, de conflit social pour la réforme des retraites. Donc il y avait la réforme des retraites, il y avait Sainte-Soline, et c'était un conflit très chaud. Il y avait entre les manifestants.
Il y avait une atmosphère
qui était très présente. Oui. Et surtout, pour avoir connu des gens, des professeurs, des camarades qui y étaient, il y en a qui sont traumatisés aujourd'hui encore.
Oui, c'est un événement traumatisant pour beaucoup.
Il y en a qui n'arrivent plus à dormir sans réfléchir à des explosions de grenades à la tête et tout.
Oui. Entre le bruit et le mal que ça fait aux yeux, une grenade lacrymo...
C'est une violence, comme j'ai dit dans ma chronique, sonore et aussi physique.
C'est... En tout cas, l'État, quand c'est pour protéger un trou dans un champ, ils mettent beaucoup de sécurité. Hein.
Et bon. Quand t'es pas préparé mentalement à ça, c'est très compliqué, c'est très surtout
et
pour les familles.
Personne l'était, parce qu'il n'y a jamais eu autant de réactions face à une manifestation.
C'est vrai.
En tout cas, merci pour vos réactions. On passe tout de suite en musique avant de vous présenter la chronique de Chris sur la... Non, excusez-moi.
Non, normalement, c'était moi.
Je me trompe totalement.
C'est moi sur les violences du football en Turquie.
Et oui.
On continue sur les violences, finalement.
Oui.
On reste sur les violences footballistiques.
Avec un peu moins de blessés.
Et on se retrouve sur Radio Campus Orléans après le titre de Ballon of Comrade qui s'appelle Boom Gang.
Same room, diamonds white, booty, fancy sex in the same room. Little old booty. body fight the sex in the same. Kim's young body fight the sex in the same. Sasha dumb body fight the sex in the same. Hollow smart body fight the sex in the same. Joseph's fat body fight the sex in the same. Chris died body fight the sex in the same. Of my eating, if you're still deciding without any side inside, we deserve the best. This will be perfect, even when she does. Every time you go, girl, she always asks me for a kiss. Consent is still the only key. People all around, listen to what.
Retour sur l'émission Écoute ta fac, et le 15 mars, c'était un Jean-Pierre Joseph, militant autochtone de Guyane, qui a fait de sa vie une lutte pour les droits amérindiens en France, et tu as prévu, Chris, de nous en parler en détail.
Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, je souhaite que nous rendions hommage à un grand nom et un vétéran de la lutte pour les droits amérindiens en France, qui s'est éteint le 15 mars 2024 dernier. Né en 1957 dans une famille de Kalina, peuple amérindien se situant sur plusieurs pays d'Amérique latine, Jean-Pierre Joseph a participé aux premières heures du mouvement amérindien français dans les années 80 et à la lutte pour la reconnaissance des droits des autochtones sur les terres guyanaises. En 1987, il fait notamment partie des militants qui ont interpellé le préfet de Guyane afin que le décret reconnaissant les droits d'usage collectif sur le terrain Domanio, signé par Jacques Chirac, la même année, soit réellement appliqué. La plupart du temps, la France a toujours délaissé les questions des autochtones et tout particulièrement des peuples amérindiens. C'est grâce à Jean-Pierre Joseph, cofondateur de l'association Abakani, que le village de Padoc, dans la région de Saint-Laurent-de-Maroni, et dont est originaire sa mère, a réussi à se voir restituer 5000 hectares de terre. Dès qu'il est rentré des études de métropole, il s'est lancé dans ce combat qui a été très long. L'association réclamait aussi une concession que le village n'a obtenue que depuis l'année dernière, se souvient Franck Apollinaire, qu'il a côtoyé à plusieurs rendez-vous de la cause autochtone. Depuis les années 80 et son engagement sur les questions foncières, Jean-Pierre Joseph n'a cessé d'être le compagnon de route de plusieurs grandes figures de la cause amérindienne, dont les frères Félix et Alexis Tioaka, Paul Henry, Thomas Apollinaire ou encore Michel Thérèse. Au cours de sa vie, le militant de Kalani, père de quatre enfants, a connu plusieurs postes de responsabilité. Il a notamment été collaborateur aux affaires amérindiennes à la mairie de Saint-Laurent et directeur de cabinet à celle de Kamopi. En 1996, c'est lui qu'on nomme secrétaire général pour la mise en place de la symbolique cérémonie du 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain. Une cérémonie extrêmement malvenue pour les peuples amérindiens qui considèrent cette cérémonie comme une provocation de plus. Plus récemment, la Guyane lui doit aussi la mise en place des journées des peuples autochtones à Cayenne de 2012 à 2017. Son héritage principal restera sans doute le centre amérindien Kalawashi, près de Kourou. Il vise à promouvoir la culture amérindienne dans toute sa diversité, un mantra pour Jean-Pierre Joseph. Depuis son décès, à 67 ans dans l'Hexagone où il vivait depuis plusieurs années avec sa femme, d'origine métropolitaine, les hommages se succèdent. L'association Kalawashi regrette la perte d'un grand militant de la cause amérindienne, dans une tribune publiée dans France-Guyane. Ces derniers mois, la cause amérindienne a connu plusieurs deuils avec la disparition d'Henri Joseph, son frère et camarade de lutte, puis d'Alexis Tioaka. Les obsèques de Jean-Pierre Joseph ont eu lieu le 21 mars au crématorium de Beaucaire, dans le département du Gard. C'est donc avec une véritable tristesse que je tiens personnellement à rendre hommage à une grande figure de la cause amérindienne dans sa plus grande diversité. Jean-Pierre Joseph restera une figure, une image pour nous tous, pour faire respecter les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et les idées humanistes. Cette disparition permet de relancer une question, celle de l'indépendance de la Guyane, territoire amérindien sous domination française. Rappelons aussi, avant de terminer cette chronique, les conditions de vie dans lesquelles vivent les peuples autochtones en France et dans le reste du monde. Dans la grande majorité des cas, ils sont délaissés et rejetés par les gouvernements descendants directs des colons. Que ce soit en Amérique ou en France, il y a un seul et même combat pour les peuples amérindiens, vivre dignement sur les terres de leurs ancêtres, qu'on respecte leur culture et leurs pensées. Au même titre que d'autres peuples, les Amérindiens subissent depuis des siècles un véritable génocide. Alors, nous tenions à remercier Jean-Pierre Joseph pour son combat et pour sa vie et son dévouement.
J'avais une question. Est-ce que, du coup, il habite en Guyane ou juste c'était quelqu'un qui se battait, qui était militant pour la cause guyanaise, mais pas forcément...
Alors, il est né en Guyane. Okay. Et par contre, il a fait toutes ses études et une grande partie de sa vie en métropole.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai vu là. Voilà. Je trouvais ça intéressant que...
Ouais. Il a été surtout ici en métropole pour justement aller voir plus facilement les représentants et défendre de la meilleure des façons les peuples autochtones.
Ok. Et il était avocat, c'est ça ?
On était avocat.
Ok.
Moi, je trouve ça... Pardon, Luna, mais si je peux réagir, je trouve ça quand même... On n'en a pas du tout entendu parler. Donc, tu me disais tout à l'heure qu'ils en avaient parlé sur France 1, donc oui, et la télé des Outre-mer.
Des Outre-mer, ouais.
Mais j'ai pas l'impression qu'en France, c'est fait.
Grand bruit, non ?
Ouais, grand bruit. Ça n'a pas été quelque chose qui a été. On n'a pas reçu d'alerte, on n'a pas eu de reportage.
Non, mais tout le monde s'en fiche.
Ouais. Oui, oui.
Bah, ça rappelle un peu que les Dom-Tom, on les prend pas trop en considération.
Normalement, on aurait pu attendre, en tout cas. Je sais pas, au moins quelques paroles de la part du président de la République, ce qui n'a pas été fait. C'est vrai que c'est un peu dommage.
Ouais, ça fait un peu penser à la crise de l'eau en Guadeloupe aussi, tu vois, où on n'entend pas beaucoup parler alors que ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Ils n'ont pas de l'eau toute l'année.
Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Fou.
Oui, c'est encore plus terrible.
J'ai vu une vidéo de comment ils faisaient
la déforestation,
aller récupérer de l'eau, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est terrifiant. Mais bon.
En tout cas, merci Chris pour ta chronique. On passe à Antoine. Tu nous fais un point sport, en particulier sur les violences opérées entre les supporters turcs. Il y a 2 semaines, qui opposait le club, je vais y arriver, Trabzonspor et Fenerbahçe. Dis-nous un peu plus.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, malheureusement, devient de plus en plus récurrent dans le monde du foot, c'est-à-dire la violence de la part des supporters. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé des hooligans en Angleterre et on pensait que ce genre de débiles avait disparu des stades, mais apparemment non. Il y a 2 semaines avait lieu le match de foot en Turquie, donc entre le Trabzonspor, Luna, et le Fenerbahçe, qui a remporté 3-2 le match. Mais tout bascule à la fin du match. Un grand nombre de supporters envahit le terrain, mais pas pour fêter la victoire, mais pour s'en prendre physiquement aux joueurs du Fenerbahçe. Les images sont autant surréalistes que violentes. On y voit pêle-mêle des supporters, visages masqués parce qu'ils ont du courage, mais enfin pas trop, s'attaquer à des joueurs du club stambouliote avec des barres de fer. D'autres supporters ont eu moins de chance, car les joueurs du Fenerbahçe, comme Michy Batshuayi ou Bright Osayi Samuel, n'ont pas hésité à se défendre en les frappant et en frappant les supporters qui se dirigeaient vers eux ou pour défendre leurs coéquipiers. Certains ont eu moins de chance, comme le gardien croate Dominik Livaković, qui a reçu plusieurs coups de poing au visage. Donc on peut essayer de comprendre comment cette soirée de foot a pu devenir la nuit de la honte du football turc. Que ce match ait dégénéré n'a pas vraiment été une surprise. Les relations entre les deux clubs sont particulièrement tendues et les fans de l'équipe du Trabzonspor cultivent une sévère aversion envers le Fenerbahçe. Tout ça parce qu'en 2011, les Stambouliotes ont arraché le titre à la différence de but après des semaines de lutte acharnée avec le Trabzonspor, qui n'avait plus été sacré champion de Turquie depuis 1984. Mais cette saison en particulier avait été marquée par des soupçons de matchs arrangés, notamment en faveur du Fenerbahçe. Depuis, chaque rencontre entre ces deux formations se déroule dans un contexte de tension extrême. Au printemps 2014, le match avait été arrêté après que des jets d'objets, notamment des poignées de porte, ont atterri sur la pelouse. L'année suivante, le bus du Fener avait été la cible de coups de feu alors qu'il passait dans la région et le chauffeur avait même été blessé. En 2010, alors que le Trabzonspor perdait 4-0 face au Fener, un supporter était descendu sur la pelouse en toute fin de match pour frapper un arbitre assistant. Mais la seule excuse de la rivalité n'explique pas un tel débordement symptomatique d'une violence de plus en plus normalisée dans le football turc. Que ce soit dans les travées, les clubs, au sein même des institutions, le sociologue turc Dagan Irak explique ce sentiment d'impunité que peuvent ressentir certaines personnes, surtout depuis le début des années 2010. Pour le citer... Notre système de justice a été remplacé par un système partisan à l'initiative de Recep Erdogan et des Fethullah Gulen qui favorisaient les militants de leur mouvement. Dans une société où les gens ne tentent plus d'être justes mais d'être forts et où l'on pense que si on a des liens avec des gens au pouvoir, que ce soit politique ou la mafia, on peut faire face à ce qu'on veut et s'en sortir très confortablement. Malheureusement, dès qu'on entend parler de foot turc ces derniers temps, ce n'est pas pour les exploits sportifs en compétition européenne mais pour les débordements ou les images choquantes qui nous parviennent. On peut se rappeler qu'il y a 3 mois, le président du club turc d'Ankara et de 2 de ses proches étaient descendus sur le terrain pour agresser et tabasser l'arbitre de la rencontre. Cette affaire est devenue une affaire politique car quelques jours après, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 12 supporters identifiés comme ayant participé à la bagarre générale sur le terrain. Mais à voir si ces poursuites iront jusqu'au bout, car en Turquie, football et politique sont souvent très liés. En effet, la ville du Trabzonspor est un bastion de l'AFP, le parti du président turc. Et donc dans quelques jours a lieu les élections municipales et on peut légitimement se demander si les mesures seront à la hauteur des actions graves qui ont lieu ou si la justice sera plutôt clémente en raison des enjeux politiques qu'il y a derrière. Outre ces mesures, le conseil d'administration et la direction du Fenerbahçe se réunira le 2 avril pour annoncer s'ils quittent ou non le championnat turc. Donc rendez-vous compte, on est arrivé à un point où un club turc réfléchit sérieusement à quitter son propre championnat, tant le climat de violence a atteint un point qu'on ne pensait pas possible. Selon les dernières rumeurs relayées par les journalistes, le club réfléchirait à la possibilité d'intégrer un des 5 grands championnats, donc soit la Ligue 1, la Serie A, la Liga, l'Eurodiv qui est la division hollandaise, ou enfin la Pro League, la division belge. Voilà où, malheureusement, le football turc et le foot en général en est rendu. Les supporters se pensent tout permis et pensent pouvoir agir sous couvert de leurs pseudo-excuses qu'ils supportent passionnément leur club. J'espère que ce match pourra servir d'exemple pour prendre des mesures afin que cela ne se reproduise plus en Turquie, mais aussi dans les autres championnats.
Ouais, j'ai une question. Comment le club il peut rejoindre un des 5 championnats européens?
Faut qu'il voie auprès de, si je dis pas de bêtises, de l'UEFA et de la FIFA pour demander une dérogation. Ça avait été notamment le cas quand à l'époque, il y a quelques années, 2014, crise je crois, quand il y avait eu les tensions en Catalogne et la Catalogne avait demandé son indépendance. Le Barça s'était renseigné pour intégrer le championnat de Ligue 1.
Oh wow.
Donc on peut intégrer un autre championnat dans des conditions qui sont un peu particulières.
Okay, ouais,
c'est extrêmement rare, c'est exceptionnel.
C'est très rare.
Par exemple, on peut
connaître... Il y a déjà eu des cas...
Réellement, moi je vois que Monaco.
Ouais, mais encore Monaco, ils n'ont pas de championnat.
Encore Monaco, c'est un peu normal.
Non, mais par exemple, Monaco, ils ont la possibilité de rejoindre n'importe quelle compétition européenne s'ils le veulent.
On peut parler de Norwich, parce que Norwich est un club écossais ou irlandais, et ils jouent dans le championnat anglais. Donc il y a des pas des.
Ok d'accord.
Oui ça reste possible, ça reste relativement rare.
C'est très rare.
Mais il faut des cas exceptionnels. Bah, là comme, dernièrement, comme ceci, par exemple. Oui.
Dernièrement c'est tous les clubs ukrainiens malheureusement qui ont dû quitter l'Ukraine pour aller soit dans les championnats polonais, roumains ou lettons.
D'accord.
Merci ta chronique Antoine. On espère que les organisateurs des matchs installeront une sécurité suffisante pour permettre à tous les spectateurs d'assister à des matchs en toute tranquillité. On passe en musique avant de vous présenter le nouveau jeu de Nico créé et conçu spécialement pour cette émission. À tout de suite.
Et place à Make Me de LK.
Vous êtes bien sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans et on passe maintenant au jeu de Nico. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un petit jeu rien que pour nous, n'est-ce pas ?
Et oui, comme a dit Chris, on a pu entendre, j'ai fait deux jeux, oui. Il y a deux jeux aujourd'hui.
Il y a deux jeux ?
Là, vous choisissez lequel vous voulez. Oui, retour.
Comme d'hab.
Bah, comme
non,
d'hab,
la semaine dernière,
oui.
C'était pas le cas. Hein.
Oui,
non,
oui, mais c'est derrière, j'ai pas le temps. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre un jeu, c'est un blind test, il faut trouver le chanteur, mais aussi le pays d'origine du chanteur. En fait, c'est un tour du monde musical.
Oh, stylé.
Ouais, sympa.
Ou l'autre,
Jaune pour ça.
Vous connaissez le jeu du devine-tête?
Ouais. Non.
Ouais.
En gros, j'ai préparé des petites pancartes devant vous.
D'accord.
Avec une célébrité derrière.
D'accord.
Et chacun aura une pancarte. Il fera trouver. Il faut qu'il trouve avec des oui ou non en réponse. Avec des questions, on répond oui ou non. Qui est la célébrité? Et chez vous, les gens pourraient jouer en trouvant qui est la célébrité également. Il y aura un indice sonore en plus.
Ah, quoique.
Je veux la pancarte, moi.
Tu veux la pancarte, Louane?
Moi, je veux le premier. Moi, je veux le premier.
Moi aussi, le premier, ouais.
Ah, ok. Ok,
c'est beau la majorité.
Non, parce que j'avais un banger pour le deuxième, c'est pas grave.
Oui, mais peut-être la semaine prochaine.
Merci, ouais, on aura un petit embordé.
Alors, ok, bah générique. Alors,
premier degré, j'écoute cette musique en ce moment.
Ah ouais?
De Selena Gomez.
Là, du coup, le chanteur.
Avec thé à la menthe.
Ouais.
Et le pays d'où il est originaire. Donc faites gaffe, il y a des pièges. Et normalement, les musiques et les chanteurs sont tous connus dans le monde entier.
D'accord.
Vous êtes prêts?
Vas-y, mon chef.
Allez. Et là, du coup, je note les points, attention. Première musique et on répond à la fin.
Tu les notes bien cette fois. Hein.
Ouais.
Alors,
j'ai la nationalité, mais j'ai pas du tout le.
Bah, tu gagnes. Il y a deux points par musique.
T'as le prénom. Ouais. Bah, on peut se mettre en équipe alors.
Non, t'auras un point. Vas-y, Luna commence.
C'était Louis Fancy, non, il me semble.
Ok, t'as un point. Et
il est en fuite avec un mec.
Non, pas Costa Rica.
Portoricain.
Oui, c'est portoricain.
Oui, portoricain, voilà.
Oui, bah ça va, vous allez pas faire tous les pays.
Non, mais c'est bon, on est en groupe là.
Du coup, bah vous avez un point chacun. Vous avez un point chacun,
On attend le temps d'après quand il va te dire qu'il est solo.
Il va me lâcher.
Prochain, attention. Antoine avait la main premier, je crois.
Bah oui, Adèle, anglais. Anglaise.
Anglaise, oui.
Bah oui, normal. Quoi.
Ça fait 2 points pour Antoine. Bravo Antoine, on t'a
Britannique,
dit.
Moi, j'ai si je puis me permettre.
Est-ce que je peux gratter genre 0,5 points?
Dis-moi le titre, mais t'auras pas le point, vas-y.
Set Fire in the Rain.
Ok, ça marche, mais pas de points.
Moi, je trouve qu'elle mérite plus. Je trouve qu'elle mérite plus le point quand même.
Oh, allez, ça y est.
On coupe le micro de Ludo, c'est fait comme ça.
Après, le jeu, c'est trouver l'artiste et sa nationalité, pas le titre de la chanson.
C'est ça. Oui, mais moi, je l'avais.
Les règles du jeu.
Les règles sont les règles, et puis on s'y plie.
Mais c'est vrai qu'on peut donner des points bonus, moi, je pense.
Mais c'est tonardé, tu trouves.
Moi, je pense que les règles sont faites pour être détournées.
Mais c'est le jeu, ça s'appelle le jeu de Nico, donc alors, c'est les règles de Nico.
Je propose un truc, on laisse Ludo répondre à la prochaine, elle est plus dure, elle est très compliquée.
Non, mais ça y est.
Ah bah oui.
Oh, la discrimination, je suis choqué. Okay.
Il triche.
Il est en train de tricher
devant tout le monde.
Je pense vraiment,
il en a rien à faire.
Je vais pouvoir entendre, ça pourra jamais entendre mon téléphone.
Non, mais t'as juste à taper le titre, Jérusalem.
Je connaissais pas le titre.
Non, je connaissais pas le titre.
Alors Ludo?
J'ai rien dit. Moi, j'ai juste dit si on trouve le nom de la chanson pour acheter un point bonus.
Ok, quelqu'un a?
Non, en vrai, moi, j'ai pas. J'ai juste le titre. J'ai pas le chanteur. Et
pas le pays? Essayez un pays.
Afrique du Sud.
Avec Chris à le point, c'est l'Afrique du Sud.
Ouais,
avec
c'est ça.
Oh.
Et c'est Master 4G. 4G. Oui, c'est l'Afrique du Sud, Master 4G. Bravo.
Mais moi, je vais être nul.
Comment t'as su que c'était l'Afrique du Sud?
Bah, il a peut-être une culture cinématographique.
Bah non.
Musical du coup.
Oui, musical du coup.
Le prochain, attention.
C'est vrai ça.
Il est plus simple.
C'est nul.
De toute façon, Chris.
Alors, Luna, tu as la réponse, je crois.
Oui, j'ai la réponse, puisque c'est Rosalia et elle est espagnole.
Wow, ah oui, c'est Rosalia. Bravo. Ouais. Bravo, Luna. Bravo.
Oui.
Loulou. Alors, la prochaine,
Luna.
Elle est piège. Attention, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes peut-être prêts, mais allez-y.
Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, c'est Dieu que c'est possible.
C'est à Antoine.
Alors vraiment, j'ai levé la main, mais ça va être une totale proba. Natacha Saint-Pierre, non? Mais qui c'est?
Vas-y.
Natacha Saint-Pierre, non. J'allais dire canadienne.
C'est qui? Non. C'est la meuf.
Ou québécoise, mais...
Elle est dans... Non, c'est
pas
elle.
C'est pas elle?
C'est pas elle.
Je regarde pas.
Alors, Persona?
Elle s'est embrouillée récemment.
Ah, la Rafa Bian, j'en sais rien.
Non, c'est Tina Arena qui est australienne, mais qui chante française.
Français.
D'accord.
Français. Oui, c'est du coup Persona le point.
Je n'aime pas du tout.
Non, jamais. La musique me disait quelque chose, mais...
Allez plus haut. Je vais pas chanter, mais c'est juste...
Non, mais quand on écoute, ça va, c'est vrai. On reconnaît, mais...
Je l'ai pas, moi.
Allez, on passe à la prochaine. Là, je vais voir tout le monde lever les mains en même temps.
Allez.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Bah du coup une réponse collégiale, ça me va.
C'était Antoine en premier. Psy.
On a tous levé la main en même temps.
Tous le point comme ça.
Sud-coréen. On s'en est peut-être un peu après Antoine.
Quoi?
Sud-coréen.
Ouais, sud-coréen.
Bah bravo, vous avez tous le point, bravo. Bravo.
J'ai rien dit, moi.
Ouais.
Non, j'ai rien dit.
Ouais, j'ai entendu un Antoine.
Allez, on passe à un prochain.
Je dis j'étais en même temps.
Ah, je crois qu'Antoine a levé la main premier.
Ça va être horrible la prononciation. Carly Rae Jepsen.
Ouais.
Et bah, elle doit être anglaise. Non. Ou américaine.
Elle n'est pas américaine ni anglaise.
Non.
Australienne.
Elle n'est pas canadienne.
Voilà, il lève la main, il ne connaît pas la réponse.
C'est Luna qui a levé la main, qui est canadienne.
Et en plus, c'est une des chanteuses préférées d'Antoine.
Non, alors, Marseille, je tiens à dire que
cette chanson est même dans sa playlist.
C'est vrai,
et
c'est qu'il
l'écoute en secret.
C'est ma chanson secrète.
C'est pour ça que, c'est vrai que Antoine.
C'est pour ça que j'ai reconnu direct.
C'est vrai que Antoine, contrairement à toi, il gagne les jeux.
Oui, voilà.
Pas besoin de le faire en secret, voilà. Antoine. Non.
Et vraiment, du coup, ça fait quoi? Un point pour moi, un point pour Luna?
Oui, un point chacun.
Allez.
Allez, on part sur une prochaine.
J'en connais un là-bas. Ah, zéro.
De ouf.
C'est vrai.
Je suis pas dans le mood là.
Essaye de gratter.
Attends. Louane a une réponse.
Ouais, c'est quoi ça?
C'est quoi Louane?
Alors, je suis sûre que c'est pas ça. Mais vas-y, au feeling, au culot, je dirais un truc en lien avec la Star Academy.
Non.
Mais c'est pas une réponse du coup.
Pourquoi? C'est pas une
réponse. Merci Louane.
La Star Academy n'est pas.
Tu as dit Lara Fabian?
Non.
Non, c'est pas Lara Fabian.
C'est Natacha Saint-Pierre.
Elle est d'origine asiatique. Même.
Angoun?
Angoune,
bah elle est française.
Comment? Non, elle est pas française, Angoune.
Bah, elle a représenté la France.
Elle est
indonésienne.
Oui, mais elle est pas forcément.
C'est indonésienne, elle représente la Suisse.
Elle, je suis.
Qui est là?
Elle est indonésienne. Je
connais pas. J'ai le point ou pas pour Angoune?
Oui, t'as le point, Antoine. Merci. T'as le point. On part sur une petite avant-dernière.
Et comment tu connais Okun, toi? C'est
Angoune. C'est pas Okun. C'est Angoune, c'est pas Angoune.
Excusez-moi.
C'est pas un manga.
Poster dans sa chambre.
Oh, alors non, mais Nico, tu veux pas dire ça? Okun, c'est un mot.
Vous m'entendez?
C'est pas un manga.
Oui, oui. On y va, le prochain.
Allez.
J'ai vu Ludo et Antoine lever les mains en même temps.
Oula, moi j'étais après Antoine si vous voulez, mais.
Bah, d'accord, moi je dis Mika Libanais.
Voilà. Ouais. J'allais dire, tu peux me donner le point aussi. Hein.
Il est anglais.
Histoire de.
Non, il est libanais. Hein.
Il est vraiment libanais.
Il est autant anglais que toi t'es suisse. Hein.
J'espère t'as mis Garou. Hein.
Et on passe.
Non, il est pas 100%, il a des origines.
Ça me fait 6 points, Ludovic.
Merci.
Wow. Moi je trouve que c'est très européocentré, moi je trouve, comme jeu.
On passe
tout
à
ça parce qu'il perd.
On passe à la.
Attends, il trouve un petit peu.
Je parlais d'Afrique du Sud, Canada, l'Asie, que si tu veux.
Oui, oui, mais ça reste quand même.
Il a
voilà,
très
hein.
Européen.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors,
très occidental.
On peut jouer.
Très occidentalisé.
Surtout que
l'Occident.
Que c'est vraiment la playlist d'Antoine.
Attention, l'avant-dernier, vous êtes prêts? Écoutez bien.
Toujours, toi, t'as un micro.
Écoutez bien l'avant-dernier.
Justement, qui est là pour accompagner les agriculteurs d'Europe à faire leur transition écologique. Et si on regarde les chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est très peu. Et la raison, celle-là, Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, moi je lui souhaite un bel avenir, ça c'est certain.
Alors
c'est énorme, incroyable. C'était
Christian Guéret, franco-colombien.
J'ai trois en moi, j'espère.
T'as les deux points.
Et la chanson, c'est quand j'avais fait la chronique sur les réformes des agriculteurs.
Allez, on passe au dernier son.
Quel beau chant.
Attention, il y a peut-être un indice. Hein.
J'ai les chiffres, mais je sais plus les chiffres. Voilà. C'est quand même,
on passe au dernier.
Non, je les ai pas.
J'ai pas eu le temps.
Alors, Chris ?
C'est Shakira et elle est colombienne, mais elle a aussi des origines libanaises.
Je demande juste à la nationalité, pas les origines de la nationalité.
Oui, c'est... Mais non, Chris, t'as demandé la nationalité.
On demande pas le CV.
Elle a les deux.
Oui, si tu veux. Alors, les deux points. Attention, je compte les points.
Et Chris vient juste de se mordre les lèvres pendant toute la durée de l'extrait.
Le classement.
C'est pas vrai, en plus.
À 0 points, on a
Ludovic,
Ludo et Louane.
Bravo, ouais, bravo, ouais, Louane.
Bravo, bravo.
À 4 points, on a Luna.
Oui.
Oh. Et égalité à 6 points,
oui.
Antoine et Chris.
Bah, d'où il a 6 points.
Mais il est sort d'où ces 6 points.
Après, il a gagné 2 points sur lui et sur Shakira. Donc 4 points sur lui et Shakira.
Ah oui.
Mais bon, Antoine mérite plus de gagner parce qu'Antoine n'a pas gagné sur lui-même. Donc bravo Antoine, oui, t'as gagné le jeu.
Bah, alors, mec, Christian Guéret, c'est toi.
Oui, c'est moi.
On l'avait tous.
Tu comprends pas ce chiffre ou pas?
J'ai les chiffres.
Et voilà. Merci à tous d'avoir joué.
Merci Nico.
Bon
moment. Merci. On touche bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac, mais avant, c'est la recommandation de la semaine de nos chroniqueurs. Et du coup, je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire, cinématographique ou autre voulez-vous nous faire partager?
Allez, Antoine.
Qui veut commencer?
Je commence?
Allez, vas-y.
Parce que ça vous arrange et que vous en avez pas.
Ne dis pas les choses.
Moi, je vous conseille la série Turning Point, l'arme nucléaire et la guerre froide sur Netflix. Ils avaient fait une précédente série de documentaires qui était 39-45, l'humanité en guerre. Et là, ils sont repartis sur le... Je viens de le déclencher sur mon téléphone sans le faire exprès. Sur toute la période de la guerre froide et comment il y a eu une rivalité entre les Américains et les Russes et comment le monde entier a tourné et est tombé dans cette rivalité. Okay. Il y a 6 épisodes de 45 minutes.
Alors moi, c'est une personnalité qui est sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch, qui s'appelle Carte du Monde. C'est un freelance qui est donc analyste, cartographe et qui fait des infographies axées géopolitiques. C'est vachement bien pour l'actualité, notamment internationale, en particulier sur les conflits qui se passent en ce moment, sur l'Ukraine, la Russie, etc. Et un deuxième compte qui est un peu dans le même style, plutôt orienté guerre dans mes souvenirs, c'est Little Think Tank aussi sur Twitter. Et par contre, je ne sais pas s'ils ont une chaîne YouTube.
Je crois pas.
Ouais, je crois pas non plus.
Je les suis aussi et j'ai pas
mais
vu ça.
Mais du coup, voilà, Carte du Monde et Little Think Tank sur Twitter, c'est vraiment des très très bons comptes à suivre si vous avez l'application et que vous pouvez retrouver sur d'autres applications aussi, il me semble.
Et les
réseaux sociaux.
Quand tu dis là, la Carte du Monde, c'est pas, il avait pas une chronique sur Quotidien lui aussi?
Ah, je
Est-ce
sais pas
tu
du
sais
tout.
Si c'est lui qui faisait la chronique sur Quotidien et qui a du coup ouvert ce compte Twitter.
C'est une bonne question.
Je te pose une colle, désolé.
Je t'avoue, je sais pas.
Ouais. Moi,
je sais pas te dire.
Une roco, si vous voulez. Vous avez tous vu, on a parlé du film Dune 2, Dune 1, voilà. Mais d'abord, c'est un roman écrit par Frank Herbert, sorti dans les années 65, qui rééditait tous les gens. Là, il y a une réédition qui est sortie qui est super magnifique, la couverture. Luna est d'accord, elle a vu
la
couverture.
On l'a vu ensemble, en effet.
Et je vous conseille de lire le livre. En plus, vous aurez l'histoire et vous pourrez savoir la fin du prochain film qu'il y aura.
Alors, c'est pas juste un livre, c'est toute une série.
Oui, il y a quatre livres. Il y a quatre
livres, mais en fait, il y a un univers.
Il y a plusieurs livres, en fait.
Étendu.
C'est un désert, en fait. C'est un détendu.
À toi, Luan.
Moi, je vous conseille une application qui s'appelle Pol, donc P-O-L. Je viens juste de la télécharger, c'est très sympa. Alors, le principe, il est simple. C'est une appli qui a été mise en place par, du coup, des étudiants de Sciences Po. Et en fait, chaque jour, vous avez une question d'opinion. Voilà, donc une question qui est amenée à être traitée par l'Assemblée nationale. Vous avez des éléments de contexte, les arguments en faveur et les avis de l'opposition. Alors, je trouve ça plutôt pertinent dans le sens où il y a vraiment une pluralité et ça permet de faire également une veille parlementaire et de se tenir au courant de l'actualité d'une manière un peu ludique et concrète. Donc, je trouve ça super sympa. Voilà.
Merci. Ouais, c'est une bonne appli, ouais.
Toi, Chris.
Alors, moi, je ferai très rapidement. C'est un film, c'est Roadhouse sur Netflix avec notamment Conor McGregor. Ça parle d'un ancien champion du UFC qui va être embauché pour être videur dans une boîte où il va y avoir un gang qui va vouloir détruire la boîte, enfin le bar. Donc, c'est pas du grand cinéma, mais ça fait le taf.
Très bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission et on se retrouve avec la même équipe jeudi prochain. Ne manquez pas l'émission Écoute ta fac tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de midi à 13h. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous.
Bonne journée.
Au revoir.